Bon, j'avais dit qu'on allait lancer le débat.
Oui, merci Sébastien. Tu as réussi le tour de force de lancer le colloque et de tuer la table ronde. Puisque le ami architecte, votre rôle dans les démarches participatives est réduit à la part la plus minime. Bon, non, à cette plaisanterie, je vous laisse la parole. On a une demi-heure d'échange, d'interpellation et de réaction ou de questions à ce qui vient d'être énoncé.
Avec tous les intervenants de la table ronde.
Oui, bien sûr.
Voilà. Ça marche ? Voilà, merci. J'ai une question pour chaque intervention. La première, c'était un peu j'aurais voulu mieux comprendre le contexte d'intervention de REP et la question qui était posée par le maître d'ouvrage de l'étude. Pour essayer de comprendre, enfin, en tout cas tel que vous le racontez, ça a l'air d'être un échec. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils ne l'avaient pas prévu ou qu'est-ce qu'ils espéraient trouver à la fin qui n'a pas marché? Enfin, y a un truc bizarre que j'ai pas bien compris. Et la deuxième question, là aussi, c'était, j'aurais voulu mieux comprendre le cadre d'intervention de planning. Est-ce que c'est du pur militantisme? Est-ce que vous êtes vous-même des habitants de la Villeneuve, des étudiants de l'école d'archi, pour identifier un peu le cadre d'action dans lequel vous vous situez?
Bah, je démarre, ouais. Oui. Ça marche, ouais. D'abord, nous, oui, c'est un échec. En tout cas, si on considère que ça se termine maintenant, c'est un échec. On verra si c'est prolongé, auquel cas on fera le bilan, parce que finalement, toutes les actions là, dont on parle dans le programme, elles ont duré au moins 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc 18 mois, c'est très court pour installer ce genre de choses. Après, comme on a travaillé sous une municipalité qui n'était pas celle qui avait fait la commande, ça veut dire qu'il n'y avait pas de commande politique, et ça veut dire que les élus n'avaient pas missionné leur service pour travailler, sauf une personne à la mission Grand Projet de Ville, qui, et ça a été dit ce matin aussi, le problème des institutions qui sont confrontées à leur réduction budgétaire, à la difficulté, à la réorganisation des métropoles, avait, 3% de son temps à consacrer à la démarche. Donc, en tant qu'AMO, on essaye de faire bouger les services pour que... Parce que là, il était question, par exemple, qu'on construise les projets avec les habitants. Donc, l'habitant qui a dessiné son projet d'aménagement de la parcelle jeu, il l'a fait avec les services des espaces verts. Mais les services des espaces verts, après le temps qu'ils dessinent réellement sur le papier, qu'ils reviennent nous voir pour qu'on rediscute, etc., tout ça a pris au moins 6 mois. Quand on a élaboré la charte de la parcelle d'initiative, on a fait un modèle qu'on a discuté en réunion, etc., le service qui devait récupérer ce dispositif a mis 8 mois à nous faire un retour, etc. Donc à un moment, la commande, le portage politique, il est essentiel si on est dans un cadre comme le nôtre, c'est-à-dire un cadre avec une mission professionnelle, un cadre très institutionnel, quoi. Et nous, on est resté dans ce cadre-là, de fait. Donc si on est dans ce cadre-là, il faut un portage politique. Et la deuxième chose, c'est que comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas assez précisé, je pense, mais notre 4 projets... Il concernait quand même des activités qui étaient illégales, de fait. C'est-à-dire que les barbecues, en fait, je ne l'ai pas dit, c'était des femmes africaines qui, depuis 3 ans, s'installaient sur le quartier. Elles amenaient leur petit barbecue, elles se posaient, et puis elles faisaient à manger. Donc elles achetaient, elles faisaient les courses et tout. Et puis après, elles les vendaient. Et donc, il y avait regroupement de la communauté africaine, mais pas que. C'était quand même un moment assez partagé. Et donc, c'était vraiment de l'activité de vente, en plus de restauration sur l'espace public. Donc, 2 dimensions qui sont interdites, la vente illégale et puis la restauration pour des questions d'hygiène. Ça, l'espace mécanique, c'était la mécanique habitante qu'il y a dans tous les grands ensembles. Et donc, au début, les acteurs ne voulaient pas du tout s'y frotter en disant « là, c'est compliqué ». Après, quand on a un peu travaillé la chose, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs sortes de mécaniques. Il y avait des habitants mécaniciens qui travaillaient, qui offraient un service aux Noirs, mais qui intervenaient comme des mécaniciens. Puis il y avait un usage de loisirs par des jeunes ou des adultes qui se retrouvaient là. C'était une activité comme jouer aux boules, c'est-à-dire on se retrouve autour de la voiture, on change le rétro ou on répare un petit truc, etc. Donc, mais ça, c'était illégal aussi. Donc ça c'était illégal. Et la muscu, non, c'était pas illégal, mais c'était pas dans le projet. Ça va. Mais c'est illégitime parce que voilà, parce que les femmes, parce que voilà. Alors après, il y a des tas de, fantasmes hein, sur les usages de l'espace public aussi, où tous les dans les réunions, c'est marrant parce que tout le monde y va avec son sur la muscu. Alors voilà, l'installation d'agrès, d'une plateforme d'agrès. Alors soit c'était un parcours sportif, soit c'était un agrès. Donc toutes les discussions avec tous les acteurs, les élus, etc., les habitants. Alors il y en a qui disaient oui, mais les femmes, c'est sûr qu'elles viendront parce que les jeunes filles, elles font plein de sport, elles adorent ça. D'autres qui disent mais c'est vous rêvez ou quoi ? Jamais il y aura une femme sur l'espace public qui viendra. D'autres qui disaient ah oui, les seniors viendront parce qu'ils m'ont demandé. Mais ça va pas, il y aura jamais un seul senior, etc. Enfin, bon, c'est... Donc finalement, quand on projette comme ça des nouveaux usages, c'est aussi difficile de savoir. Donc il faut le travailler en fait, ce projet-là. Mais de fait, on a pas pu le. Donc c'était quand même, c'est pour ça qu'on a eu cette lecture des confrontations avec les logiques entre une demande et puis des logiques de la collectivité, parce que ces projets-là particulièrement ont soulevé tous les points de blocage qui faisaient que dans une collectivité qui n'était pas encore aguerrie à ce genre d'usage, elle ne savait pas quoi apporter. En plus, elle n'était pas missionnée dessus, donc clairement, là, il n'y avait pas l'enchaînement de planètes, là, comme on disait ce matin. Pas du tout.
Du coup, pour répondre, je repars sur ce que j'avais ciblé sur la question du financement. En fait, le moment où la mobilisation habitante a rencontré en fait le travail de terrain, parce que c'est simplement quelqu'un qui travaillait sur le terrain de la Villeneuve depuis déjà un an en immersion, pour donc l'expérience de community organizing qui avait pris forme sur le quartier autour de la mobilisation contre, enfin non, pardon. Pour la reconstruction d'une école qui avait brûlé pour des raisons de fuite sur des conduites des gaines techniques. Voilà, donc il y avait eu cette mobilisation et donc il y avait une double question qui était voilà, d'apporter un temps de travail vraiment avec des compétences plurielles. Donc moi je suis de formation architecte. David est organisateur et Sébastien était à la fac de géographie. Enfin voilà, donc et puis on avait d'autres expériences chacun. Donc il y avait à la fois cette idée d'apporter des compétences techniques pour monter et pour constituer un projet urbain qui soit à la hauteur pour entrer en négociation. Par rapport à ce qu'on nous affichait côté institutionnel en fait, et de vraiment penser que chaque groupe d'acteurs a sa propre maîtrise d'œuvre en fait, ses conseillers etc., mais pas les habitants. Et donc c'est dans cette lignée de l'advocacy planning qui a été théorisée il y a déjà un petit moment de ça. Et en même temps, voilà, ce que je dis, c'est que là où c'était pas évident, c'est qu'il y a cette question de l'organisation, du community organizing comme une profession d'organisateur, d'aller chercher des personnes qui ne viendraient pas dans des espaces collectifs, qui sont plus sur des espaces informels, mais qui pour autant ont vraiment leur mot à dire, ont des projets construits, ça a été ce double travail et comment faire passer d'un côté et de l'autre tout en travaillant la question délicate de la reconnaissance en fait des paroles, même si les personnes ne sont pas toujours en présence. Voilà.
Si je peux rajouter un petit mot, je crois que dans un village, je l'appelle village parce qu'il a été transformé par ses habitants, parce que c'est une région agricole à l'origine, et donc il y a cet esprit de solidarité, cet esprit de partage, etc., qui est citoyen avant d'être militant. Donc, des fois, on n'a pas le choix. On nous a on a voulu nous imposer des choses et nous, on refuse. Et donc, il y a un rapport de force, mais c'est pour négocier. On n'aime pas les rapports de force. Il y a parmi nous des gens qui ont vécu beaucoup de choses très dures, ou bien chez eux à l'étranger ou en France, dans des conflits sociaux, etc. Et donc, je trouve qu'on ne peut plus séparer maintenant. On ne peut plus être indifférent. Quand les choses vous tombent sur la tête, si vous ne prenez pas vos affaires en main, qui c'est qui va le faire? On a délégué des gens, on a été déçus. Et donc, on se retrouve clairement sur le front, et il faut y aller. Eux se sont établis, on cherche à les faire participer avec nous. Voilà, dans ce débat qui est démocratique, républicain et pacifique.
Est-ce que ça répond à...
Oui, enfin, c'était juste la question de... en fait, vous êtes... Enfin, il n'y a pas de procès d'intention dans ce que je veux dire, mais vous êtes auto-saisie de cette question en étant...
C'était une demande du groupe d'habitants mobilisés, ouais, que d'avoir une expertise professionnelle. Enfin,
oui, mais une forme de
mais il y a une forme de...
Assistante technique, si vous voulez.
Oui, mais il y a une forme de saisie. C'est pas, ouais. La frontière n'est pas
engagés,
évidente, en fait.
Ils sont impliqués, ils en font plus, c'est vrai. C'est pour ça qu'on les a adoptés.
Ah oui, c'est très différent.
Oui, et sur la question de l'instrumentalisation, là, je trouve que c'est quelque chose, parce que quelque part, je notais là que nous, par exemple, le porteur sur la parcelle jeu et convivialité, là, qui s'est beaucoup investi, qui a beaucoup travaillé, et au final, qui a laissé tomber, découragé par toutes ces choses. Après, finalement... La question ça a été, qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on ne l'a pas instrumentalisé dans cette expérimentation? Parce qu'on l'a épuisé, en fait, finalement. Lui, d'être parti de ça, et puis parallèlement, il est aussi parti d'autres associations où il était, parce que ça l'avait fatigué. Et finalement, est-ce qu'on l'a instrumentalisé? Et donc, le contexte de l'expérimentation, il n'est pas évident, parce que si, en gros, quand il y a échec ou non-sortie, voilà, on s'interroge sur l'instrumentalisation. Par contre, s'il y a réussite, on dit qu'il y a innovation. Mais, donc on n'a pas le droit de se planter, en fait. Ou plutôt, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait absolument une sortie. Donc c'est pour ça que nous, on va travailler sur le fait qu'il y ait une sortie à tout ça.
Il y a eu beaucoup de bras qui se sont levés, donc je vous laisse la parole et des interventions pas trop longues pour que tous les gens qui ont demandé puissent s'exprimer.
Alors j'enchaîne. J'ai une question très rapide à adresser à Pérou. Je voulais savoir, comme ça apparemment, ce que votre action sur la New Jungle, elle vient pas d'une commande. Comment vous financez ce projet de recherche et d'action sur ce projet-là?
Ah bon, on finance c'est un projet de recherche financé par le PUCA, en l'occurrence, comme l'était le travail en Essonne aussi. Et en fait, on travaille un peu à l'envers souvent, c'est-à-dire qu'on commence les travaux et puis on va chercher des soutiens en fonction de ce que l'on voit devenir. Donc en l'occurrence, par exemple, tout le travail photographique que l'on a développé à Calais comme étant une partie prenante essentielle du travail de recherche a été requalifié chemin faisant par le ministère de la Culture comme une commande photographique d'État dont le Pérou a délégation de maîtrise d'ouvrage. Voilà, il y a toute une histoire à Avignon qui est assez intéressante aussi, où on a engagé un gros process de travail et petit à petit, et c'est un travail passionnant ça, de recomposer, enfin décomposer aussi, et de nous faire apprendre ce qu'on est en train de faire, de composer des tours de table, on dit, ou des productions, et aussi de faire s'articuler donc des financeurs de soutien de la recherche en archi en urbain, du ministère de la Culture, de la Fondation Abbé Pierre, etc. Voilà. Après, puisque on produit des films ou des livres aussi, chemin faisant, enfin... Voilà, c'est un peu souvent a posteriori, donc c'est un peu fatigant, mais c'est bon, jusqu'alors on s'en est sorti.
Bonjour, Marie-Kenza Boisdou, je suis doctorante au CRH à Nanterre et je travaille sur les relations entre le logement social et les nouvelles pratiques artistiques prises sous le prisme de la participation. Vous avez brièvement évoqué la place des artistes dans la coproduction de la ville. Je voudrais juste faire une petite remarque pour vous amener à être peut-être un tout petit peu vigilant sur l'amalgame qui peut être fait entre participer et participer en art, qui ne recouvre pas du tout ni les mêmes formes. Quand vous disiez, Monsieur Dupérou, dont j'ai perdu le nom, pardon, que le rôle de l'artiste était de redistribuer la capacité d'agir aux gens, il me semble que c'est beaucoup de responsabilités données aux artistes qui éventuellement vont proposer une expérience esthétique qui éventuellement pourrait être politique, mais que ça s'arrête là. Sur les histoires de participants en art, je vous invite à lire Joël Zas qui s'est largement exprimé sur ce sujet et qui du coup définit par plutôt un prendre part et un faire qui rejoint les théories de Pascal-Nicolas Lestrade. Merci.
Bonjour, Florent du collectif ETC. Alors, ça fait quelques années qu'on développe une iconographie assez riche sur les chantiers, avec des images de réunions avant, des images pendant et des images après, et qu'on publie régulièrement sur Facebook avec une certaine intensité. Il a été cité Lucien Kroll, donc on est sur les années 70. On a cité, sans le citer, Saul Alinsky, qui a mené les premières expériences dans les années 30. Et on a parlé, mais sans le parler, de la permanence architecturale qui, elle, remonte à 1880, où c'est Patrick Gates qui a fait les premières expériences à Édimbourg. Ça fait un siècle et demi, globalement, qu'on ressasse ces questions, qu'on les recycle, qu'on les recompte. Je dirais pas qu'on tourne en rond, parce que c'est toujours intéressant, il y a plein de choses qui émergent. En tout cas, ça me pose deux questions. La première, c'est la culture des précédents. Donc c'est Verkotteren qui en parle, et on a effectivement un problème de transmission aujourd'hui entre des expériences qui sont menées un peu partout, et comment on arrive à les réactualiser pour les inscrire dans le contexte actuel. Des moments comme celui-là y contribuent, on a nécessité d'avoir une multiplication de ces espaces, et en tout cas des temps de rencontre et d'échange et critiques par rapport à ce qui est en train de s'être mené. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que ce qui n'a pas changé, par contre, depuis un siècle et demi, c'est notre système de représentation élective avec une délégation totale des pouvoirs auprès de quelques-uns qui décident de la manière dont l'ensemble doit vivre. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas remis en place et qu'on ne l'aura pas remis en question, on sera tous bloqués dans les manières dont on met en place, dont on développe des projets. Parce que toutes les expériences qu'on cite, à un moment, s'il y a un blocage, il vient du pouvoir politique. Il vient des élus, qui ne sont d'ailleurs, il me semble, pas trop présents ici. Il y en a peut-être un ou deux qui s'est égaré, mais en tout cas, ils ne sont pas là. Et je me dis que peut-être qu'on peut essayer de trouver, de reprendre des éléments de vocabulaire et qui permettent de reconfigurer les modes de fonctionnement. Par exemple, on a parlé de maîtrise d'usage. De maîtrise d'usage, mais ça a été évoqué. Peut-être que la maîtrise d'ouvrage doit devenir la maîtrise d'ouvrage. Et donc c'est elle qui décide. Parce que la question, ce n'est pas de savoir qui participe avec qui, c'est qui décide de quoi. C'est ça l'élément essentiel. Et à partir du moment où on arrive à recréer des instances de décision qui soient partagées, on pourra peut-être réussir à redévelopper un mode de fonctionnement un peu plus ouvert. Voilà.
Oui. Autre remarque, autre question ? Moi, j'ai envie de reprendre la parole à ce moment-là, s'il y a un petit blanc. Je voulais réagir à ce que vous disiez. Enfin, d'une part, sur la culture des précédents, je pense que c'est essentiel. Et comme vous le dites, ce moment-là peut participer à contribuer à des formes de transmission. En même temps, on documente des expériences très contemporaines. On n'est pas remonté dans le passé, mais ce qu'on fait aujourd'hui peut servir d'archive pour de futurs projets. Encore faut-il que ça puisse être transmis. Sur ce que vous dites, sur le blocage dans lequel on est du fait d'une certaine conception de la représentation politique, de la délégation totale à quelques-uns. Il me semble que dans les deux expériences qui ont été présentées, donc de Toulouse et de Grenoble, on est effectivement tout à fait dans ce cas de figure-là, où on est dans une forme de pouvoir de démocratie concédée à une population qui est mineure en dehors du moment de l'exercice du vote, à telle enseigne qu'il suffit d'un changement de mandature locale pour que ce qui a été concédé soit repris et ne soit pas considéré comme un mode normal de production de la décision publique concernant un environnement qui affecte la vie des gens. Mais là, vous dites que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. 150 ans, c'est relativement court à l'échelle de l'histoire de nos civilisations, l'histoire de la démocratie. Ce que vous dites sur le statut du public qui est incompétent politiquement, quelque chose qui a émergé dans la théorie politique avec John Dewey dans les années 20-30, qui essaie de résoudre le problème de la tension qui s'exerçait sur les démocraties avec un peuple qui était tantôt omnipotent, et il le voyait avec l'émergence des régimes totalitaires qui, au nom du peuple, écrasaient toute voix discordante, y compris celle des experts, et également incompétent dès lors qu'il s'agissait d'agir sur leur environnement. Et le moyen que proposait John Dewey pour sortir de cet enfermement entre omnipotence et incompétence, c'était ce qu'il appelait l'enquête. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très très bien ce qu'il mettait derrière, et qu'aujourd'hui, finalement, ces dispositifs dont on parle, c'est aussi bien des dispositifs d'action que des dispositifs d'enquête. Et la façon dont les habitants, dont les citoyens, dont l'ensemble des acteurs, peu importe finalement leur niveau d'intégration aux institutions, leur qualification professionnelle, leur extériorité par rapport au champ, participent à la production d'une expertise partagée, ça ressemble un petit peu à ce que John Dewey décrivait comme l'enquête. Mais bon, c'est une lecture que moi, j'en fais. Je ne suis pas sûr que les spécialistes de John Dewey diraient la même chose. Je n'ai pas travaillé plus que ça à la question. Deuxième remarque, et c'est une question du coup aux intervenants. Nous, quand on est parti sur ce programme-là, et notamment dans le projet de parcelle initiative, et puis quand on a soutenu Pérou, on se disait, on est dans notre rôle, finalement, d'institutions publiques un petit peu émancipées, on va dire, qui ne sommes pas là pour exécuter ou appliquer une règle comme une loi d'airain, mais à produire du légal à partir de l'illégal, à produire de la décence à partir de l'indécence. Et puis, quand on commence à mettre ça en œuvre, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Transformer quelque chose qui était illégal en quelque chose de légalisé, ça peut le vider de son contenu. Alors, on se dit, que doit-on faire alors ? Le laisser, le couvrir d'un voile d'ignorance, mais à partir du moment où on le connaît, c'est pas évident. Et du coup, je me demande s'il n'y avait pas une piste qui vient d'un autre champ que le champ de l'urbain, qui est le champ de la santé, c'est celui de la réduction des risques. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité publique à réduire les risques de ce qu'on ne peut interdire. Et du coup, quand on se place dans cette perspective-là, faire en sorte que les barbecues se déroulent dans des conditions sécures par rapport au risque d'incendie, que les ateliers de mécanique se fassent dans ces conditions sécures par rapport aux accidents qui peuvent survenir, eh bien, c'est quelque chose qui ne consiste pas à couvrir de l'action illégale, mais simplement à réduire les risques d'activités que l'on ne peut pas ou qu'on n'entend pas interdire. Et du coup, à laisser place à des formes d'existence d'un public qui ne sont pas dans les canaux traditionnels de l'action publique, l'action professionnelle encadrée avec toutes les garanties et les sécurités qui y vont derrière.
Les salles de shoot de l'action urbaniste.
Voilà, les salles de shoot de l'action urbaniste.
Mais quelque part, je ne sais pas si je vais être claire dans ce que je vais dire, mais dans les barbecues, là, l'idée, effectivement, de rendre la chose sécure en faisant des aménagements qui rendent sécure, en éventuellement mettre quelqu'un qui va gérer, donc nettoyer avant, après, je ne sais pas. Bon, c'est une chose, mais... moi, je trouve que la collectivité, c'est possible de le travailler sur un plan juridique et réglementaire. Mais je trouve là où la collectivité a le plus de mal, c'est à se dire, je vais laisser faire. Je vais laisser faire cette population qui a décidé de faire des barbecues, de faire des choses elle-même. Et je ne vais pas intervenir en tant que collectivité et en tant que propriétaire du sol de l'espace public. Nous, ce qu'on a compris, c'est qu'au final, la collectivité publique, elle se comporte presque comme un souverain sur son domaine. C'est-à-dire qu'il faut que tous ce qui se passe sur l'espace, son domaine public, soit conforme non seulement au réglementaire ou au risque ou tout ça, mais aussi à son projet politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien pour cette population. Ce qui est bien pour cette population, c'était de faire venir les femmes. Alors évidemment, moi je suis d'accord, mais c'était ça. Mais du coup, c'était au détriment d'autres choses. Et donc, je pense que la limite de la participation, c'est quand la collectivité a une attente. Quelque part, il faudrait qu'elle n'ait pas d'attente. Et c'est pour ça que la question de la formulation, vous disiez bien formuler le problème tout à l'heure, la question de l'enquête, pour nous, elles sont essentielles. Et c'est pour ça que notre enquête sur qui a révélé quelle était la demande sociale, qu'on aurait pu et dû prolonger peut-être même, elle est essentielle pour dire de quoi ont besoin les habitants. Parce que nous, en ce moment, on fait pas mal de... On participe beaucoup aux études de préfiguration des protocoles de nouveaux projets de renouvellement urbain, volet social. Donc on rencontre beaucoup les acteurs sociaux. Et dans tous les projets de renouvellement urbain, la participation citoyenne, l'empowerment, maintenant, c'est fixé comme un objectif. Et quand on rencontre les acteurs sociaux, c'est bah oui, il faut faire de la participation, il faut les faire participer, etc. Et en fait... Mais il y a plusieurs façons de se positionner. Il y a, selon les contextes, quand même, il y a vraiment différentes façons. Et moi, j'ai entendu à Tarbes des acteurs sociaux qui avaient une posture autour du concept de développement social local, qui était intéressant, mais qui tenait vraiment. Et qui disaient, parce qu'ils avaient impulsé un jardin partagé, parce qu'il y a un problème de cohabitation de communautés anciennes et nouvelles qui était compliqué. Donc, ils avaient mis en place un jardin, une sorte de jardin partagé. Et puis, dans l'enquête, on leur demande, mais qui arrose, comment vous le gérez? Et ils nous disent, ah ben nous, on n'en sait rien, et on est très contents de ne pas le savoir, parce que ce n'est pas notre objectif. Nous, notre objectif, c'était d'impulser quelque chose par rapport à un problème qui était ces tensions entre communautés qui faisaient que, du coup, les gens étaient mal. Et on a identifié l'outil du jardin pour travailler à ça. On l'a impulsé, c'est-à-dire qu'on a fourni des locaux pour que les gens se réunissent, travaillent ensemble. Ils ont fait tout ce travail d'activation avec les écoles, les associations, etc. Et après, c'est les gens qui l'ont fait, qui l'ont construit. Maintenant, ils ne savent même pas qui arrose, qui apporte la terre, qui machin, etc. Bon, il a 8 mois, il est toujours très beau. On va voir comment ça se passe dans le temps. Mais là, je trouve que la collectivité s'est dessaisie, en fait, de ce qui se passait, de cette vie sociale dans l'espace. Et je pense que ça devrait être ça, l'objectif de la participation, quelque part.
Alors, ouais. Moi, je voulais parler, du coup, sur la Villeneuve, ce qui est assez intéressant, c'est que, finalement, les projets de réappropriation, ce qu'on pourrait mettre dans des cadres de petits projets portés par des associations, par des collectifs, etc., finalement, c'est un peu une culture qui est déjà existante sur le quartier. En fait, il y a plein de gens qui ont des projets, qui les ont menés. Enfin, voilà, c'est pas un manque. Enfin, et ça se fait de manière indépendante. Mais là où les habitants, quand ils se sont mobilisés, avaient une demande, c'était d'être sur les grandes orientations politiques, sur la question, par exemple, du logement, en fait. Du logement, des enjeux de logement, et comment, au niveau de la mairie, il y avait un engagement politique là-dessus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans l'espace indépendant qui a été créé, en fait, il y a un discours qui a été produit, qui est repris aujourd'hui par les pouvoirs publics. Donc dans la dernière réunion, moi j'ai pu observer qu'en fait les habitants se positionnaient comme bienveillants vis-à-vis des personnes en présence, donc de la nouvelle équipe d'architectes, et disaient on n'a rien contre vous, hein, mais en fait ce que vous nous proposez, ça nous intéresse pas, les micro-projets. Nous on veut définir les grands enjeux et on veut discuter du prix de l'immobilier, quoi. Voilà, il y avait cette position de bienveillance ça se braque pas de l'autre côté.
Pour compléter, donc, par rapport à l'enquête participative, on en a fait, donc c'est un peu trompeur. Je vous cite un exemple qui a très bien marché à la Villeneuve, c'est celui de la Batucavi. C'est quoi? C'est une fanfare des percussions brésiliennes. C'est un artiste, Willy Levastre, né là-bas, qui aime beaucoup la Villeneuve, qui connaît son histoire sur le bout des doigts. Il a réussi à fédérer tout le monde autour des gamins. Il a commencé par le tout petit. Maintenant, il a 3 équipes et c'est devenu le fleuron, pas seulement de la Villeneuve, de Grenoble. On leur a payé le voyage, on a cotisé tous, même la mairie s'y est mise, pour leur payer le voyage à Rio pendant les Jeux Olympiques. Ils sont partis là-bas et ils partent dans des concours et chaque fois on passe des films sur eux et c'est devenu le centre d'intérêt, si vous voulez, c'est le lien social, c'est le commun. C'est cette bateau cavie, des gamins adorables qui jouent d'une manière merveilleuse des percussions.
On va passer à la troisième table ronde.
S'il vous plaît.
Oui, ah, pardon.
Je me permets juste d'intervenir parce que je fais partie de ces quelques élus aujourd'hui qui se sont égarés parmi vous. Et donc l'invectivation appelait sûrement réponse. Et c'est vrai que depuis ce matin, en fait, on tourne autour du pot, autour d'un enjeu sûrement politique et du rapport du politique en tant qu'élu. Je ne parle pas du politique de manière générale sur l'organisation de la cité, donc de celui qui a été élu à un moment donné pour prendre la décision et représenter la société dans le cadre de notre démocratie représentative. Et c'est vrai que en tant qu'élu, moi, je suis toujours interrogé sur comment on doit prendre la décision, et ça nous renvoie à la question de l'intérêt général. Et c'est vrai qu'on a une vision française de l'intérêt général qui est toujours portée par un seul et unique homme qui serait, ou femme d'ailleurs, qui serait capable un petit peu de voir un petit peu tout ce qui se passerait sur un territoire donné et qui serait en capacité d'arbitrer comme ça pour tout le monde. Je partage pas en fin de compte cette vision-là de l'intérêt général, en tout cas. Je pense que je me retrouve bien sur ce que vous définissiez en disant qu'il y a un moment, il faut pouvoir être en capacité aussi, en tant qu'élu, en tant que collectivité, en tant qu'institution, en tant que représentant de l'institution, en tout cas, de pouvoir laisser faire, d'être en capacité de laisser la place aux habitants et de laisser faire. En tout cas, de pouvoir aussi accompagner ce laisser faire, parce que s'il y a bien, enfin, ce que j'ai entendu dans la précédente intervention, c'était que le politique était parfois en capacité de bloquer certaines choses. Oui, ça existe comme situation, mais je crois qu'il y a l'autre frange, il y a l'administration aussi qui est en capacité de bloquer certaines choses. Et on peut avoir des fois des postures en tant qu'élu qui est de dire « non mais il faut faire ». Et puis une administration qui est des fois craintive, qui nous dit « oui mais non mais c'est pas possible parce qu'on a tel règlement, et puis non, et puis truc, machin, non ça va pas le faire ». Puis moi je le constate, hein, ça fait 2 ans et demi que je suis élu, il y a des projets qu'on avait mis en place pendant une campagne municipale, et puis on est en train de voir un petit peu comment il faut pouvoir les faire rentrer dans le cadre administratif qu'on nous donne, et c'est pas simple. Donc je pense que voilà, il y a un vrai rôle pour l'élu de pouvoir accompagner au regard de toute cette restriction du faire pour pouvoir laisser faire en fin de compte des habitants dans l'espace collectif avec un regard plutôt bienveillant et pas porteur d'un regard qui est de dire bah, attention, l'intérêt général nous guide plutôt vers ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intervention précédente.
Non, je voulais dire une chose tout à l'heure, mais enfin, qui résonne avec ça. Je suis très surpris de votre intervention. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision-là, c'est-à-dire du laisser faire. Je trouve que c'est une forme. Enfin, heureusement qu'on laisse pas faire ce qui se passe à Ris, à Calais, etc. Et que l'enjeu n'est pas absolument pas là. C'est-à-dire que l'enjeu, à mon sens, et de complexifier la scène, de peupler la scène et de vous sortir du réduit de pensée dans lequel vous êtes flanqué par les acteurs qui produisent le problème jusqu'à à vos oreilles de représentants et qui vous le produisent dans un dualisme d'une sécheresse telle qu'aucune espèce de perspective autre que ce qui se reproduit ne peut se dessiner. Donc je pense que l'enjeu des projets qui sont proposés là, c'est au contraire de peupler la scène, de la complexifier, de faire apparaître des concernés autres, de faire apparaître d'innombrables possibles autres, et que la fonction du politique est d'opérer, non pas de trancher entre les les pour et le contre entre les pour les migrants, mais c'est d'opérer un travail de négociation qui est un travail de négociation où les intérêts, vous avez raison, sur l'intérêt général, il n'y a pas, il n'y a que de la négociation entre des intérêts divergents, et tout l'enjeu du politique, c'est de faire s'articuler des intérêts qui ne seront jamais au diapason, mais qui seront articulés dans la décision, par l'action, etc. Voilà, c'est mais donc sûrement pas laisser faire, dire c'est sûrement pas laisser faire.
Je me suis donc comprendre quand je disais laisser faire, j'étais plutôt dans le registre de l'initiative habitante, citoyenne, dans le cadre de... Vous n'êtes pas d'accord. Non.
Ce qui déboule dans la jungle avec des matraques, c'est l'initiative citoyenne. Donc, non, mais à un moment donné, il faut
parler... Je suis issu aussi d'un territoire qui est sûrement préservé par rapport à tout ça, qui sont les pentes de la Croix-Rousse, avec une histoire urbaine tout à fait spécifique, et qui fait que l'initiative citoyenne est sûrement plus collective que celle que... Enfin, pas forcément collective, mais...
On va peut-être stopper là la discussion. Vous avez le droit de continuer entre vous ensuite, parce qu'on a prévu donc, une troisième table ronde.